let me see you.
I ain't worried doing me tonight. A little sweat ain't never hurt nobody. Don't just stand there on the wall. Everybody just move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body.
Depuis 2020 et la sortie du confinement, le discours politique tend à valoriser le sport comme porteur en soi de valeurs éducatives. Il suffirait de bouger plus pour mieux apprendre. Les Jeux Olympiques de 2024 ont alors été l'occasion d'une campagne d'incitation à la pratique sportive. Campagne qui oublie d'associer étroitement les professeurs de PS, comme si le sport, ce n'était pas tout à fait le domaine de l'éducation physique et sportive. Ce constat s'inscrit dans une longue histoire de relations complexes entre le sport et la discipline scolaire. Dans d'autres pays francophones, la référence au sport est évacuée. On dit éducation physique et à la santé, en Belgique et au Québec par exemple. Pourquoi est-ce que l'EPS, ce n'est pas du sport? Quels sont les enjeux de ce double mouvement d'assimilation et de différenciation entre une discipline d'enseignement et une activité extrascolaire? L'EPS est peut-être la seule discipline à subir à la fois la comparaison et la concurrence avec des associations extérieures à l'école, au sport fédéral et de compétition. Quelle est l'histoire de cette relation entre sport et EPS? Comment la vision politique du sport, de ses vertus et finalités, a déterminé le rôle et la place de l'éducation physique à l'école? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchranger.
En 2022 est sortie l'histoire politique de l'EPS de Serge Durali et Guillaume Dietsch, qui retrace les origines de cette discipline scolaire et qui nous permet d'en faire une rapide synthèse. Au début de l'école républicaine, le sport est absent des programmes. Ce dernier est alors une activité de loisir, du temps libre, un luxe principalement réservé à l'aristocratie. Qu'il soit compris comme une activité hédoniste, centrée sur le plaisir, ou comme un lieu de compétition où la seule victoire compte, le sport est perçu comme incompatible avec les valeurs de l'école. L'activité physique est alors perçue non comme une fin en soi, mais comme un moyen d'être en bonne santé et de se préparer à la guerre.
Dernièrement, le ministre de la guerre, pour que la France ait des hommes aux efforts, a décidé que tous les militaires à la caserne devraient faire du sport. Depuis, je vous assure, on cultive journellement notre musculature et l'on peut dire fièrement, du bout des pieds à la tête, on est des athlètes, des chevilles jusqu'au type, on est des sportifs.
En effet, jusqu'au milieu des années 20, les seules personnes qui reçoivent un enseignement physique sont les militaires, et ce sont eux que l'on retrouve dans les écoles avec, sous le bras, le manuel de gymnastique et des exercices militaires, sous la double tutelle du ministère de la Guerre et de l'Instruction publique. C'est le Front populaire qui va démocratiser le sport comme une culture pour le peuple qui a enfin accès aux loisirs grâce aux congés payés et à la réduction du temps de travail. Cela reste cependant, pour ce même peuple, un divertissement, un échappatoire, et non une discipline digne d'entrer pleinement sur les bancs de l'école. C'est seulement en 1958 qu'une épreuve sportive devient obligatoire au baccalauréat, soutenant l'idéal gaulliste d'une nation compétitive et performante. Est alors valorisée la performance sportive avec pour référence le sport de haut niveau.
Au JO de Rome en 1960, c'est la débâcle. La France enregistre la plus mauvaise performance de son histoire, seulement 5 médailles et aucune en or.
La discipline scolaire peine à trouver sa légitimité propre. Ce sont les différentes finalités politiques qui instrumentalisent le sport à l'école. En face, l'école rechigne à considérer l'activité physique comme un enseignement intellectuel et formateur. Au lendemain de mai 68, l'éducation physique entre à l'université. Il s'agit à la fois d'établir une vraie réflexion sur la mise en jeu du corps, de sa libération et non plus de son contrôle, et de concevoir une science de l'action et du mouvement. Écoutons à ce sujet Pierre Parlebas, un des premiers chercheurs en sciences et techniques des activités physiques et sportives, à ce propos.
En effet, le sport et l'activité physique n'est pas magique. Elle va entraîner des conséquences très différentes selon tel jeu ou tel sport. Et nous devons faire comme nos collègues le font en physique, en géométrie, en géographie. Nous devons adapter nos contenus à nos objectifs. C'est-à-dire, si l'on veut développer la maîtrise de son émotion, si l'on veut développer la relation de solidarité, il ne faut pas proposer n'importe quelle activité. Et cela nécessite des recherches de terrain, comme on fait des recherches classiques dans le domaine sociologique et psychologique. Donc, nous militons pour qu'il y ait un travail fait sur le fonctionnement des jeux et des pratiques, c'est-à-dire sur l'action motrice des enfants.
Devenue une science, l'activité physique peut être enseignée, étudiée, et elle est l'objet d'une transmission de savoir autre que les seules techniques des sports eux-mêmes. Néanmoins, les professeurs de PS continuent d'avoir un statut particulier et ils ne sont rattachés à l'éducation nationale qu'en 1981 et l'agrégation n'est ouverte qu'en 1983 après l'ouverture d'une maîtrise en STAPS. Si l'EPS doit en partie sa légitimité de sa différenciation avec le sport fédéral et de compétition, qu'apprend-on dans les cours ? Faire de l'EPS une discipline scolaire à part entière, c'est alors penser l'activité contre l'idée de compétence innée et de performance physique. Tant que le sport de haut niveau reste la référence du cours d'EPS, ce dernier est élitiste, peu inclusif et amène peu d'élèves à la réussite. Par exemple, la table de cotation des performances physiques de l'ETC a permis au début des années 60 de rationaliser l'évaluation.
Parce qu'elle note aussi bien l'élève moyen que celui doté de qualités athlétiques, l'adoption de la table ETC aux examens d'EPS autorise la combinaison et la diffusion d'une culture sportive à grande échelle. Par ailleurs, elles se font parfaitement dans le paysage d'une école dont l'accès se démocratise, mais qui, dans le même temps, entend préserver sa principale mission, c'est-à-dire la sélection des meilleurs. Alors que l'évaluation des élèves et leur notation se déroulent dans des conditions très hétérogènes, la table ETC présente l'avantage d'apporter une certaine cohérence, sinon une unité dans le classement des élèves. Chaque performance sportive, qu'il s'agisse d'un saut en longueur, d'un saut en hauteur, d'un lancer de poids ou de javelot, ou même d'une course de vitesse, est en effet traduite en nombre de points, grâce à une échelle allant de 0 à 500 points.
L'activité physique devenait évaluable, mais son application a eu pour conséquence la désertion des filles du cours d'EPS et même du baccalauréat. Une fille sur 4 ne se présente pas à l'épreuve obligatoire en 1966, et les dispenses augmentent de 50% chez les filles dans cette même période, comme nous le rappellent les historiens Jean Saint-Martin et Michaël Attali. En effet, le problème de la différence sexuée est l'héritage des valeurs du sport, monde dominé par le masculin neutre, où les garçons socialisés très tôt à la performance, l'effort physique et l'occupation de l'espace sont les grands gagnants. C'est après 1981, dans le cadre des nouvelles missions de l'école, lutter contre l'échec scolaire et les inégalités sociales, que l'EPS abandonne l'évaluation quantitative pour une évaluation plus qualitative, où on prend en compte les progrès, les connaissances acquises, la réflexion sur la pratique, mais aussi l'expression corporelle et la créativité suite à l'ajout des activités artistiques dans le programme. L'EPS repose alors sur de très nombreuses APSA, autrement dit des activités physiques, sportives et artistiques, comme le cirque ou la danse. La performance ne représente plus qu'une partie de la note. Dans chaque champ d'apprentissage est aussi évaluée la capacité à s'entraîner et à exercer un regard critique sur ses capacités de progrès. Sont aussi notées les compétences sociales grâce aux différents rôles que les élèves peuvent adopter au sein des APSA. Cette diversité des compétences évaluées transforme l'EPS qui devient pour le Conseil national des programmes en 2002 une discipline transversale au même titre que l'éducation morale et civique. C'est un renversement paradoxal. Le sport n'entrait pas à l'école car il était considéré comme incapable d'éduquer. Alors qu'aujourd'hui, les bulletins officiels prêtent à l'EPS toutes les vertus pédagogiques nécessaires à la formation d'un, je cite, « citoyen cultivé, lucide et autonome ». En parallèle, le sport est vanté dans le discours médiatique et politique. La Cour des comptes, dans son rapport de 2019, synthétise tous les bienfaits du sport qui
« améliore la forme physique et mentale, donne confiance en soi, améliore le sommeil, améliore la force musculaire, procure du plaisir, renforce le capital santé, donne envie de partager, apprend à gérer ses émotions, permet de gagner en autonomie, encourage la prise de responsabilité, améliore l'estime de soi, diminue le stress, améliore l'humeur et la cognition, augmente le niveau d'énergie et d'endurance, limite l'obésité, améliore la fonction cardiaque, favorise le respect des autres et des règles. »
On observe que l'activité physique est non seulement le support d'une éducation à la citoyenneté, mais aussi et surtout à la santé, retrouvant ainsi ses origines médicales et hygiénistes datant de la fin du XIXe siècle. La Cour des comptes en profite pour regretter que l'EPS soit si éloigné des exigences de la performance sportive et critique la multiplicité des disciplines enseignées qui ne permettent pas aux élèves ni d'avoir un niveau autre que débutant dans chaque APSA, ni de progresser réellement. Sa conclusion est dure et polémique. Je cite « La conception et l'organisation de l'enseignement de l'EPS rendent très difficile une appréciation de son efficacité en tant que discipline. » L'EPS se trouve à nouveau pris dans des débats politiques sur la place du sport dans la société et à l'école. Comme dans les années 70, où le ministère voulait déléguer certaines heures de PS à des animateurs sportifs, les années 2020 sont marquées par un retour du sport extrascolaire en concurrence de l'EPS. C'était le sens du programme 2S2C, Sport, Santé, Culture, Civisme, lancé à la sortie du confinement. Il s'agissait de faire intervenir des animateurs sportifs du secteur privé pour faire bouger les élèves.
Ce dispositif s'inscrit dans un processus qui se déroule tout au long du XXe siècle et qui témoigne que loin d'être innovant, il s'inscrit dans une histoire de longue durée qui vise à considérer que le système éducatif doit faire une place plus ou moins importante à des protagonistes extérieurs à l'école.
C'est aussi ainsi qu'a pu être interprétée la nomination en 2021 d'Olivier Giraud, licencié depuis le 13 mars dernier, champion de handball à la tête de l'UNSS, l'Association sportive de l'éducation nationale. Jusque-là, tous les présidents et les présidentes étaient issus de l'éducation nationale et étaient formés à ses valeurs et ses missions. Ainsi, l'EPS est une discipline qui doit systématiquement prouver sa légitimité au sein du système scolaire, parce qu'elle est trop confondue avec le sport, et qui, à l'opposé, doit affirmer sa valeur sportive et son utilité éducative lorsqu'elle est mise en concurrence avec le monde associatif et fédéral. Un enjeu actuel, de taille, serait d'accompagner les élèves dans une pratique libre d'entretien du corps en s'opposant au discours marchand et narcissique des salles de sport. Il est bon alors de se rappeler que l'école ne peut pas tout, que l'EPS souffre du nombre de ses missions et de leurs ambitions qui participent à l'absence de clarté de la discipline pour les élèves et leurs familles. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.